BFM Business. Midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Je recevrai Laurent Escure, secrétaire général de l'INSA, alors que tout le monde est en train de faire différents scénarios sur la sortie de crise, du déconfinement. Comment est-ce que ça peut se passer? On reviendra aussi sur le chômage partiel avec cette déclaration de Muriel Pénicaud hier à notre micro, comme quoi le cap des 10 millions de chômeurs avait été passé. Comment reprendre le travail? Est-ce qu'il y a un problème aussi de responsabilité pénale des chefs d'entreprise? Est-ce qu'il faut un impôt exceptionnel, comme le demande Laurent Berger de la CFDT? Donc Laurent Escure, le secrétaire général de l'INSA sera là d'ici une dizaine de minutes. Juste avant, je recevrai Nicolas de la Giraudet. Il est directeur général du General Mills. General Mills, vous le savez, c'est un groupe américain, mais c'est Yoplait, Géant Vert, Häagen-Dazs. Je me verrai avec lui la question de la consommation en France, sachant qu'elle a chuté de 33% selon l'INSEE ce matin. Et puis, est-ce qu'il y a un risque de pénurie et de hausse des prix? Mais tout de suite, toute l'information, elle vous est apportée aujourd'hui par Audrey Maubert. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Un effondrement sans précédent dans l'activité du secteur privé dans la zone euro a sombré en avril. L'indice PMI s'affiche à 13,5 contre 29,7 points en mars. Ce sont ce matin toute une série de chiffres catastrophiques en Europe. En France, l'activité du secteur privé a connu une contraction, là aussi sans précédent en avril. Un nouveau plus bas historique à 11,2. En Allemagne, le moral des consommateurs s'est effondré sans surprise à un plus bas record. De mauvais chiffres qui sont venus peser ce matin sur le rebond des places européennes, des places qui suivront également le Conseil européen. Il doit à nouveau se réunir cet après-midi par visioconférence. Sur la table, un plan de relance alimenté par une dette commune. L'Allemagne est prête, dans un esprit de solidarité, à contribuer beaucoup plus au budget européen, a promis ce matin Angela Merkel. Avant ce Conseil européen, Emmanuel Macron s'entretenait ce matin avec les maires de France. Les consultations se multiplient, en effet, en vue du déconfinement à partir du 11 mai prochain. Le ministère du Travail confirme le déplafonnement des tickets restaurants de 19 à 95 euros pour faire ses achats au supermarché, par exemple, avec la possibilité de dépenser ce montant dans les restaurants dès leur réouverture. Une série de publications dans un contexte inédit. Renault, par exemple, a fait les frais de l'effondrement du marché mondial. Bien sûr, un chiffre d'affaires en chute de plus de 19% au premier trimestre à 10 milliards d'euros. Le groupe confiant toutefois sur sa solvabilité. Il estime que ses réserves de liquidités sont suffisantes. Mais Renault espère d'ici mi-mai obtenir pour plusieurs milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Hermès également, dont le chiffre d'affaires a baissé de 6,5% au premier trimestre, résiste un peu mieux que d'autres acteurs du secteur. Un peu mieux toutefois, Hermès assure d'un fort impact au deuxième trimestre. 75% des magasins du groupe sont toujours fermés. Enfin, plus de 30 milliards d'euros de dividendes qui ne seront pas versés par les entreprises du SBF 120. Calcul d'une étude publiée par IHS Markit. Effet de la crise, des dividendes divisés par deux par rapport à l'année dernière. Ils étaient à un niveau record de 64,5 milliards d'euros. Le CAC 40 à la mi-journée avec cette progression de quasiment 0,40% à l'heure actuelle à 4 429 points. Tout de suite, votre billet, bien évidemment, le rachat avec Edwige Chevrillon dès à présent.
Merci Audrey. Dans un instant, je vous dis, on reçoit Nicolas Lagiraudet, directeur général de General Mills, Yoplait, Géant Vert, Häagen-Dazs. Et puis ensuite, c'est Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, qui sera notre invité. À tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, est-ce que la consommation qui est en chute libre, qui a perdu 33% selon l'INSEE depuis le confinement, risque de reprendre? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie et de hausse des prix? On en parle avec Nicolas Lagiraudet, directeur général de General Mills. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous avez subi dans vos produits, est-ce que dans vos marques, des marques très grand public, est-ce que vous avez subi un tel effondrement de la consommation?
Bonjour Edwige Chevrillon. L'agroalimentaire est effectivement chahuté, mais beaucoup moins que d'autres secteurs. Et nous, le témoignage que je peux apporter, c'est qu'il fait preuve d'une grande résilience. Nos marques, que vous l'avez cité, c'est Yoplait, Old El Paso, Géant Vert, Häagen-Dazs. Ce sont des marques familiales, du quotidien, accessibles, gourmandes. Et on observe deux phénomènes. Un, toute notre activité hors domicile est effectivement à l'arrêt. On a 64 boutiques à Gundas en France, elles sont fermées. On sert la réaction collective, ça n'a plus lieu d'être. Mais cette baisse forte sur cette partie de notre activité est compensée par ce qu'on observe à travers les changements de consommation. Et depuis le confinement, on consomme plus à la maison, forcément, et notamment l'impact le plus fort, c'est sur le déjeuner. Et on avait, avant le confinement, la moitié des déjeuners étaient pris en France hors du domicile, c'est plus le cas aujourd'hui, et ça crée des opportunités. Et je vais vous citer quelques exemples. Des opportunités sur des catégories qui sont plus consommées à la maison qu'au restaurant. Exemple, les produits frais, les yaourts, et on le voit sur notre portefeuille de marque, panier Yoplait, perles de lait, petit filou, une croissance forte. On le voit aussi sur des marques qui donnent des idées de menus, parce que la question qui revient souvent dans les familles, c'est qu'est-ce qu'on va faire à déjeuner? Et cette question, elle revient deux fois plus souvent qu'avant.
Mais grosso modo, par exemple, sur les yaourts, sur Yoplait, par exemple, c'est moins plus combien?
C'est plus 20%, ce qu'on voit sur la consommation des yaourts. Et donc, le report à domicile compense la perte de hors domicile sur cette catégorie précise. Je vous parlais des idées à la maison, des idées de menus faciles à faire. Sur une marque comme Old El Paso, qui sont, si vous voulez devenir les champions des tacos ou des burritos, Old El Paso vous aide. Nous, on voit une augmentation de 20% de nos ventes grâce au report de la consommation à domicile. Ouais. Et enfin, ce qu'on observe aussi, c'est que nous, les Français, on mange pas pour vivre, on vit pour manger. Et donc la nourriture, c'est un moment de convivialité, un moment de partage, et des produits plus gourmands continuent d'être, je dirais, d'avoir tout à fait leur sens. Et on voit avec la saison estivale qui pointe son nez, la météo qui est meilleure, la saison des glaces et des crèmes glacées va venir, et notamment avec le portefeuille qu'on a à Gundas, on voit justement que les choses s'accélèrent.
Mais est-ce que vous allez réouvrir vos boutiques le 11 mai, par exemple, à Gundas?
Alors, vous faites écho à un peu de qu'est-ce qui va se passer après en période de post-confinement. À partir du 11 mai, on se tient prêt à rouvrir progressivement nos 54 boutiques à Gundas, effectivement, mais en permettant à nos clients de venir récupérer leurs commandes en boutique et de se faire livrer chez eux. D'accord. On est en train de mettre en place des mesures vraiment très strictes de protection de nos collaborateurs, de nos consommateurs. Et on vient cette semaine de réouvrir une de nos boutiques de ce type-là en Allemagne. Et justement, on apprend des différents marchés pour être prêt en France.
Ok. Nicolas de la Giraudet, il y a UFC Que Choisir qui a fait une étude, j'imagine que vous l'avez vue et lue, qui montrait que notamment sur certains fruits et légumes, il y avait une hausse des prix assez significative. Alors après, il y a la réponse de Jacques Ressel, qui est le président de la Fédération de la Distribution du Commerce, qui ici même disait, bah oui, si vous voulez, les gariguettes, les fraises gariguettes, c'est toujours son exemple, ça coûte plus cher que les fraises espagnoles. Est-ce que vous avez augmenté vos prix? Est-ce que vous observez, et comme vous êtes aussi, vous achetez aussi des matières premières, est-ce que vous observez une hausse des prix?
Non, nous, très clairement non. On a effectivement des coûts de production qui sont plus importants. La mise en place de gestes barrières, des primes que nous avons versées à nos employés. On a des coûts supplémentaires, mais on a vraiment pris un parti pris fort qui était pour nous de pas augmenter nos tarifs à nos clients. Mmh. Et aujourd'hui, on prend ça sur nos marges, on essaie d'être créatif pour justement faire notre part et de faire en sorte que les prix ne bougent pas. Et à ce propos, je pense que cette période-là, elle est une période d'un peu de réinvention collective. Et je voulais ici saluer un peu la réinvention des relations qu'on a avec notre partenaire distributeur. La majorité de nos produits, nous, on les vend à travers la grande distribution.
La grande distribution, oui.
Notre enjeu numéro un, au-delà de protéger nos employés, c'était protéger notre supply chain, notre production. On a 5 usines en France. Et on a fait notre maximum pour maintenir la continuité de notre activité. Mais parfois, on n'est pas capable de livrer toutes les quantités commandées par les magasins, parce qu'il y a des effets de...
Donc, on va peut-être vers une pénurie de certains produits, notamment que vous produisez chez General Mills.
Non, alors justement, on a eu cette peur panique des consommateurs, et je tiens vraiment à rassurer tout le monde, on n'est pas du tout en position de pénurie, mais effectivement, les commandes se sont emballées, et on n'a pas pu les livrer au jour le jour exactement les quantités demandées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos usines, tu en as plein, elles vont continuer de le faire, on a un engagement incroyable de nos équipes, et il n'y a aucun risque de pénurie. Et à ce sujet, ce que j'observe, c'est que, par exemple, nos clients distributeurs ont pris leur part dans cette solidarité et ont levé toutes les pénalités logistiques. Mmh. Et je tiens à les saluer là-dessus. Mais cette situation est appelée à durer. Je pense que nos usines vont continuer en mode dégradé et j'appelle nos partenaires distributeurs à continuer à soutenir cet effort.
Est-ce que la reprise du travail, elle va s'effectuer comment? Est-ce que vous êtes en chômage partiel à quelle hauteur pour l'instant dans vos usines?
Alors en fait, dans nos usines, je peux vous dire qu'on n'est pas en chômage partiel.
D'accord.
On est en full activité. Oui. À l'instant où je vous parle, on a lancé dans notre usine de La Battute à Géant-Vert, on essaie de recruter 200 personnes et notamment les saisonniers, parce que c'est la saison du maïs, s'annonce. Donc aujourd'hui, on recrute, d'accord. Par contre, il y a effectivement certains de nos employés qui ont été mis en chômage partiel. Une partie est uniquement notre force de vente qui visitait les magasins de la grande distribution. Et on se tient prêt, là aussi, à une reprise progressive de l'activité, très vraisemblablement à partir du 11 mai, pour prêter main forte à nos partenaires distributeurs.
Oui. Ça veut dire quoi, prêter main forte à vos distributeurs?
S'assurer que la mise en place de nos produits dans les rayons, on puisse leur donner un coup de main. Mm-hmm. Ils sont en deuxième ligne de front et on a vu qu'il y avait un trafic important en magasin en règle générale. Et pour s'assurer justement d'offrir non seulement les produits aux consommateurs qui visitent les magasins, mm-hmm. mais aussi, et nous on a ça vraiment à cœur, c'est que 85% de nos produits, même si on est une boîte américaine, sont fabriqués en France avec des produits français. Le lait de Yoplait vient de France, le maïs de Géant-Vert vient de France. Et donc d'offrir
Il faut dire que Sodiaal est actionnaire à 49% de Yoplait, non encore?
Oui, bien sûr. Oui. Et donc sur Yoplait, on est un partenaire stratégique et capitalistique avec notre partenaire Sodiaal.
Une dernière question avant justement de passer la parole à Laurent Escure de l'UNSA. Comment est-ce que vous voyez une petite différence groupe américain, groupe français, enfin vous êtes la filiale française, entre la gestion de crise du Covid-19 aux États-Unis par rapport à votre business et en France?
Alors moi, je vais pas parler de la réponse des États et je pense qu'il y a des nuances.
États-Unis
et France. Ce que je vois, c'est très consistant pour nous. C'est les mêmes mises en place de gestes barrières et de règles au sein du groupe. Et General Mills a été très rapide en France, très rapide aux États-Unis. Et on aujourd'hui, ça nous permet d'assurer la sécurité de nos employés et de protéger notre
capacité. Ce n'était pas du tout ma question, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. En tous les cas, on a vu au contraire, vous dites, on essaye de produire et que la demande est très forte, en tous les cas, sur vos marques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Lagirodet, directeur général donc, de General Mills en France, avec des marques aussi fortes que Yoplait ou encore Géant-Vert ou Häagen-Dazs, bien sûr. À suivre, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est avec nous déjà, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Merci beaucoup d'être en direct via FaceTime, évidemment. Le déconfinement, ce n'est pas encore pour tout de suite. Laurent Escure, hier, je recevais Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui nous a annoncé que le cap des 10 millions de salariés avait utilisé le chômage partiel. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce qu'à votre avis, on va aller encore beaucoup plus loin? Parce que comme elle l'a souligné, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore fait leur déclaration, et des petites entreprises surtout.
Oui, il y a des chances que ça aille plus loin. C'est un chiffre considérable, plus de 10 milliards. Peut-être qu'on atteindra les 11 ou 12 avant le 11 mai. Comme quoi, la puissance publique, la capacité que un État providence, un État stratège puisse intervenir dans des moments de crise aiguë comme ça, c'est intéressant parce que là, on a vu que on avait besoin de cette mobilisation de fonds publics pour garantir à la fois l'aide aux entreprises pour pas qu'elles coulent et l'aide aux salariés qui sont frappés aujourd'hui de chômage partiel et qui sont inquiets demain. En espérant ne pas être au chômage tout court.
Est-ce que les filets de sécurité quand même qui ont été mis en place par le gouvernement, que ça soit tant sur le chômage partiel, sur ce type de dispositif ou dans ces dispositifs vis-à-vis des entreprises, fonds de solidarité pour les plus petites ou les prêts d'intérêt, les PEG, pardon, est-ce que vous, garantis par l'État, est-ce que vous dites quand même là, le gouvernement était à la hauteur?
En tout cas, le paquet a été mis et on a appris de la crise de 2008 parce que on avait hésité en 2008, on avait fait un peu, mais on était resté au milieu du guet pendant que l'Allemagne avait déclenché à l'époque un plan de chômage partiel assez massif. Et là, on a appris de cette crise, donc les décisions ont été prises dans le bon sens. Je pense que d'ailleurs, les partenaires sociaux en sens large, c'est-à-dire les représentants des salariés d'un côté et les représentants du monde de l'entreprise, ont reconnu que cette réactivité avait été bienvenue.
Ouais. Est-ce que vous avez des contacts, je ne sais pas, quasi journaliers ou pas, avec soit Bercy, soit Bruno Le Maire, soit avec Matignon, soit avec l'Élysée ?
On a eu la chance, depuis le début de cette crise, que le dialogue social qui s'était noué depuis, on va dire, la crise des Gilets jaunes s'est poursuivi et que les partenaires sociaux ont été considérés. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que depuis le confinement, en tout cas, on a eu trois réunions avec les partenaires sociaux, l'une avec le Premier ministre et deux avec le Président de la République, ce qui est quand même assez inédit. Et par ailleurs, il y a des contacts assez réguliers avec soit, en effet, le ministère de l'Économie et des Finances, soit le ministère du Travail, pour faire remonter les choses qui se passent mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien ou qui se passent correctement dans un état de crise qui est quand même assez douloureux pour tout le monde. Ouais. Mais il y a aussi des choses qui se passent mal.
Qu'est-ce qui se passe mal, Laurent Escure?
On a beaucoup parlé d'Amazon, on a parlé des faits dans certaines entreprises, d'opportunités du chômage partiel, où partiel existe, mais où les salariés parfois continuent à travailler.
Mais est-ce
que
vous observez beaucoup ça ?
On ne peut pas leur reprocher qu'ils soient patriotes de leur entreprise.
Oui. Est-ce que vous observez ça ? Parce que c'est vrai qu'on a entendu, comme tout le monde, un, deux cas, mais en même temps, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que c'est vraiment ponctuel ou pour vous, c'est quand même un phénomène qui existe ?
C'est un phénomène qui existe. Évidemment, vous ne trouverez pas beaucoup de témoins pour vous le dire, parce qu'il y a une forme de patriotisme d'entreprise dans certains secteurs. Parfois, les salariés n'ont pas l'impression de travailler alors qu'ils sont au chômage partiel, mais ils cherchent à rendre service. C'est pour ça que les logiques de travailler plus, qui ont été vécues comme une provocation lorsque ça a été mis au devant de la scène il y a 15 jours, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Les salariés, qu'ils soient en télétravail ou sur le terrain, travaillent déjà beaucoup, ne comptent pas leurs heures. Le mieux, c'est qu'elles soient payées, évidemment, ces heures-là. Mais chacun fait des efforts vu l'ampleur de la crise. Ouais. Alors, donc, dans certains cas, des chômeurs, des personnes qui sont en chômage partiel, regardent quand même leurs mails, parfois ils répondent. Il faut juste éviter que ce soit une pratique managériale de l'entreprise.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas normal, quelque part, aussi ? Parce qu'on est quand même dans une situation exceptionnelle.
C'est, en tout cas, la situation que nous vivons, qui devrait durer, parce qu'on parle du 11 mai sur le déconfinement, mais la reprise progressive d'activité, elle sera longue. Et l'entre-deux, c'est-à-dire les préoccupations sanitaires et une reprise progressive de l'activité, il n'y aura pas un jour d'après, il n'y aura pas un bouton on-off, ça va durer plusieurs mois.
Ouais. Ce déconfinement, justement, avec le 11 mai, on voit les étapes, après il y aura, certains secteurs vont être exclus, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, les cafés, restauration, ça sera un peu plus tard, les grands chefs, les restaurants qui rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron en disant, mais on a toutes les modalités sanitaires, donc faites-nous confiance. Est-ce que les syndicats ne doivent pas aussi faire confiance aux chefs d'entreprise ? C'est une question un peu provoque pour vous, Laurent Escure, je le reconnais, mais c'est un peu la question du jour.
Non, il faut que les entreprises fassent confiance à leurs salariés. Donc, c'est de la confiance mutuelle, la confiance réciproque qu'il faut créer. Vous parlez du domaine de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme. On peut y ajouter le domaine de la culture, du spectacle vivant, ou des choses un peu moins massives en termes d'emploi, mais qui comptent. Il y a beaucoup de défilés. La France est leader sur le domaine de la mode. L'UNSA est fortement représentative dans le domaine, par exemple, du mannequinat, et où on a des travailleurs qui sont aujourd'hui handicapés, des secteurs d'activité qui sont handicapés. Donc tous ces secteurs-là sont lourdement frappés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que la préoccupation sanitaire, tout le monde le dit, y compris le gouvernement, soit au cœur de la reprise d'activité, que les protections soient présentes, que les modalités de reprise soient travaillées en dialogue avec les entreprises et les partenaires sociaux, donc avec les syndicats, que l'Observatoire du dialogue social qui existe dans les territoires soit une sorte de vigie de la reprise d'activité pour vérifier...
Est-ce que vous êtes favorable justement à une reprise, un déconfinement région par région ?
C'est les scientifiques. Il faut donner aussi crédit à la science, avec conscience, au personnel de la santé, pour donner des clés qui permettront de prendre des décisions.
D'accord.
Il est évident que là où le virus circule moins, c'est plus facile de reprendre, tout en étant très vigilant au fait que le virus, du coup, ne finisse pas par recirculer de manière très forte dans ces régions-là. Moi, je suis ouvert à toutes les discussions pourvu qu'elles soient sincères et qu'elle s'appuie sur des faits qu'on partage.
Quel est un peu le mot d'ordre que vous donnez? Alors, on va dire que l'UNSA, c'est syndicat autonome, vous regroupez différents syndicats. Hein. Quel mot d'ordre vous donnez par rapport au déconfinement et aux conditions sanitaires de reprise d'activité? Est-ce que vous vous dites il faut que ça se mette en place petit à petit, elle ne peut pas être 100% idéale du premier coup? Ou alors, vous dites vous ne remettez pas les pieds dans votre entreprise tant que ce n'est pas exactement comme ça doit l'être? Quelle est votre position?
Non, mais il y a un sentiment contradictoire chez les salariés. Il y en a déjà des millions, je veux les saluer, qui sont au front, soit en première ligne, comme les soignants, soit tous les personnels qui y concourent, soit tous ceux qui font tourner encore l'activité, qui nous permet d'ailleurs d'avoir cette conversation, d'avoir de l'eau potable, d'avoir
des
poubelles ramassées, d'avoir la capacité à se nourrir, etc. Ouais. Bon. Mais on n'a pas de consignes à donner dans ce sens. On donne des consignes à nos structures pour qu'elles négocient les plans de reprise, parce qu'il faut que le sanitaire soit au cœur de la reprise. On va avoir ce virus pendant, sauf si on a un traitement miracle, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le vaccin, on va avoir ce virus pendant plusieurs mois. Donc le virus va continuer à circuler, et donc il faut qu'on ait toutes les conditions pour qu'il circule le plus lentement possible et que la vie sociale, la vie économique, soit possible malgré le virus.
Et est-ce que vous demandez des contrôles renforcés dans les entreprises ?
Il faut en tout cas que dès qu'il y a des endroits où il y a des dysfonctionnements, ils nous soient signalés, qu'on puisse les signaler au direct, au ministère du Travail, le plus rapidement possible, pour que les actes qui mettraient en danger ou qui créeraient des nouveaux clusters, enfin des nouveaux foyers de contamination, créeraient d'ailleurs une crise qui serait quand même très difficile à gérer, tant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue social et économique.
Au jour d'aujourd'hui, après j'ai encore plein d'autres questions, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous considérez que le 11 mai, grosso modo, même si on ne va pas appuyer sur le bouton on-off, hein, pour reprendre votre expression, on a les conditions d'une reprise le 11 mai, d'un déconfinement?
C'est la suite du confinement actuel qui le précisera. C'est si on a encore 5 000, comme c'est le cas aujourd'hui, personnes en réanimation, ça sera quand même compliqué de déconfiner. Il y a des chances que ce chiffre baisse, puisqu'il baisse régulièrement depuis une douzaine de jours. On a des mesures barrières qui demeurent efficaces et que le ratio de contamination continue à décroître, c'est une chose. Si on est équipé, cette bataille sanitaire, économique, sociale, elle est d'abord logistique. On parle souvent des masques grand public. La préoccupation centrale, c'est pas tant, même si on a eu un problème avec ça, de les produire, parce qu'on nous a annoncé qu'on les aurait. Le problème, c'est de les distribuer. Comment on fait pour distribuer des masques à chaque Français, pour pas qu'il y en ait 15?
Les pharmaciens, quand ils auront le droit d'aller les distribuer, parce que là aussi, c'est un peu
ubuesque. Oui, mais vous vous rendez bien compte que si on les distribue, on va dire, à partir du 8 ou du 9 mai, on va pas faire des queues de 3 km de long devant les pharmacies. Ouais. Donc, il faudra. J'ai des idées, je les ai communiquées à tous ceux qui préparent ce déconfinement. Par exemple, on pourrait, pour une part, le faire à l'image des bureaux de vote, mais ça pose le problème du fait qu'on fasse confiance aux personnes qui viennent et qui diront, dans mon foyer, j'ai tant de personnes à équiper. Parce que, pourquoi je parle de la population en général, et pas seulement des salariés, parce que ça peut se faire aussi dans les entreprises, c'est parce qu'il y a la question du transport. Et la question du transport public ou du covoiturage dans certains territoires, qui était une bonne pratique et qui va continuer lorsque la reprise d'activité aura lieu.
Oui, qui va reprendre, hein, parce que je recevais Frédéric Mazzella de Blablacar, lui c'est chute d'activité de 98%, donc c'est pour vous dire s'il faut quand même que ça se remette en place. Deux, trois questions comme ça, Laurent Escure. D'abord, est-ce que vous redoutez qu'il y a eu que le chômage augmente au moment de la reprise, c'est-à-dire des entreprises qui vont soit maintenir des gens au chômage partiel alors que ça reprend, soit se séparer de salariés?
Oui, et on se rend pas compte à quel point la crise économique et sociale va être profonde.
On plaide
et on voit que l'idée fait son chemin, à la fois pour qu'il y ait des questionnements autour d'un état stratège, de stock stratégique, de relocalisation, de réindustrialisation d'une part qu'on avait concédée à d'autres territoires dans le monde. On plaide aussi pour un plan qui mélange à la fois la relance économique, l'investissement et la formation professionnel, parce qu'on va avoir des chocs et il ne pourra pas y avoir des séquences qui se suivraient où on soutiendrait l'économie pour pas qu'elle coule, puis après on se poserait la question des investissements pour préparer l'avenir. Les deux se mélangent et il faudra que dans certains secteurs qui étaient déjà fragilisés à cause des besoins de transition technologique ou écologique, qui d'ailleurs peuvent être une chance, mais qui vont être encore plus fragilisés par cette crise, on va avoir des secteurs entiers où des emplois ou des activités vont disparaître.
Ouais, ouais.
Et la question, ça va être, si on mobilise de l'argent public, est-ce qu'on ne ferait pas mieux, dès qu'on a des indices, d'aider ces entreprises et ces salariés à se reconvertir?
Et c'est la formation récurrente. Excuse-moi, comme il nous reste même pas une minute, le chômage partiel, ce dispositif, il faut le maintenir jusqu'à quand? Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure.
Il faut le maintenir autant que de besoin. Et concernant donc quoi qu'il en coûte, c'est la formule qui a été utilisée. Mmh. Et je pense que l'Europe doit se mobiliser pour gérer la dette. Certains parlent,
oui,
pas que dans des milieux radicaux, y compris France Industrie, certains économistes plutôt classés dans le monde de l'économie, pensent que cette dette doit être séparée du reste des dépenses publiques annuelles et devenir soit une dette perpétuelle, soit en tout cas une dette sur le très long terme.
Vous avez raison, on en avait parlé la dernière fois.
Et c'est le grand débat dans lequel nous, on s'engagera.
Oui. Ah, très bien. Ok, ben vous reviendrez nous en parler. Vous êtes pour un impôt exceptionnel, comme Laurent Berger de la CFDT?
Ben, si on est en zone d'impôt exceptionnel, ça veut dire qu'on fait face aux dépenses courantes. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse filer les déficits. Après une grande crise, en 1920, en 1929, en 1945, le taux d'endettement des pays développés actuels atteignait 150, voire 200%. On ne peut pas le faire supporter sur le budget annuel. Il faut le lisser dans le temps, voire le très long terme. Après, je pense que tout le monde doit contribuer. Ça doit être le cas des dividendes, ça doit être le cas des entreprises qui ne doivent pas être aidées lorsqu'elles ont leur domicile fiscal dans des paradis fiscaux. J'ai entendu la déclaration de Bruno Le Maire là-dessus ce matin. Je trouve que c'est très bien.
Oui. D'accord, ok, oui, c'est un point important. Merci beaucoup, Laurent Esquieu, encore beaucoup de questions.
Avec plaisir.
Bien nous voir. La prochaine fois, peut-être en studio si on est déconfiné. Merci en tous les cas. Le secrétaire général de l'UNSA était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'orage. Très bonne journée.